Bonjour à tous, je suis étudiante en master à l'EHESS et je suis également sage-femme dans un hôpital parisien. Je m'interrogeais sur que répondre aux personnes qui s'opposent au mariage et à l'adoption par des personnes de même sexe lorsqu'ils mettent en avant le fait que la différence de sexe, donc le fait d'avoir un homme et une femme qui constituent un couple, vaut comme étant une meilleure solution, ou en tout cas la richesse de la différence est à mettre en avant par rapport à un couple où les deux parents seraient de même sexe.
Est-ce que vous voulez poser cette question à quelqu'un en particulier ou
à celui qui, ou celle qui souhaite répondre?
Alors, qui c'est qui veut prendre la parole sur cette question?
Martine. Ah oui, ça c'est pour moi. C'est pour moi, d'accord. Oui. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que lorsqu'un enfant est élevé par deux femmes ou par deux hommes, il n'est pas pour autant privé de relations avec le sexe, une personne de sexe opposé au couple de ses parents de même sexe. Donc, ce qui serait effectivement un argument, ce serait l'idée qu'un couple de même sexe vivrait que entouré de couples homosexuels, avec une impossibilité d'accéder à l'altérité. Alors ça, c'est bon. Je pense que c'est un fantasme. Les enfants ont accès aux hommes et aux femmes qui constituent la société. Ils ont autour d'eux. Bon, il faut aussi se rappeler que les couples homosexuels ne sont pas dans une île déserte, hein, ne sont pas isolés de leur propre famille. Ils ont eux-mêmes des parents, des frères, des sœurs, des tantes, des oncles. Hein, et les enfants sont inscrits dans cet ensemble-là.
On peut présider, dire quelque chose ?
Oui, bien sûr. Oui, surtout, Serge, surtout je voudrais dire, moi, avant que tu parles, une chose, c'est que nos deux présidents de séance, Jennifer et Serge, ont contribué l'un et l'autre au document, et par l'un et l'autre par une ouverture internationale. Serge Portelli a dressé un panorama de la question des droits, de la situation légale et des droits des couples homosexuels dans le monde. Et Jennifer a ouvert, au-delà de notre débat d'aujourd'hui et des enjeux d'aujourd'hui, vers une question qui nous paraît importante et en tout cas dont nous demandons instamment qu'elle soit maintenant traitée avec sérieux et sans diabolisation sur la gestation pour autrui aux États-Unis. Donc je voudrais simplement, avant qu'on continue le débat, signaler qu'ils sont là, mais pas simplement pour nous donner la parole, ils sont des contributeurs à part entière du débat et je les remercie de leur générosité. On ne pouvait pas faire 8 interventions sans qu'on n'aurait pas eu assez de temps pour la discussion. Et maintenant, Serge, à toi.
Pourquoi ?
Mais simplement, ce que je voulais ajouter, c'est que éduquer un enfant, pour ceux qui sont parents et pour ceux qui ont été enfants, c'est pas essayer de comprendre ou accéder à ce qu'est l'autre sexe. Il y a un mot en trop là-dedans. Quand on éduque des enfants, on essaye simplement de leur apprendre ce qu'est l'autre. Point. Alors qu'effectivement, il soit masculin, masculin masculinisé, masculin féminisé, femme, enfin bon, tout ce que vous pouvez imaginer de ce qu'on découvre dans une vie, dans une enfance, voilà. Bah, tout ça, c'est un petit peu les hasards de la vie. Mais ce qu'il y a de profond dans l'éducation, c'est d'apprendre à un enfant tout ce que représente l'autre. Et donc la sexuation là-dedans, ou la sexualité, ou la sexualisation, comme vous voudrez, c'est quelque chose qui est, j'allais presque dire, anecdotique.
Je veux poser alors deux questions. Alors, c'est un peu en amont de justement des questions juridiques. Enfin, comment traduire juridiquement justement l'évolution des mœurs, etc. Mais il y a d'autres domaines aujourd'hui, enfin d'autres mouvements de réflexion, donc qui consistent à dire qu'il faut arrêter de considérer l'homme comme complètement coupé de la nature, séparé de la nature et tout puissant pour manipuler disons, les lois de la nature, vous savez. Bon, d'où la diabolisation des OGM, du nucléaire, etc. Alors, ici, bon, alors comment situer, disons, cette revendication, disons, de déconnexion, disons, de la filiation, et voire même de la procréation, de leur déconnexion par rapport à la procréation naturelle, disons, quoi. Et puis, d'autre part, je ne sais pas, vous venez...
Il vous reste encore 15 secondes.
Oui, oui. Moi, ça me... Le fait de balayer comme ça, disons, la procréation naturelle, enfin, donc l'acte sexuel procréateur, en disant que c'est presque accessoire, que l'essentiel, c'est autre chose, moi, ça me paraît très curieux, parce que on constate quand même que des gens qui procréent, enfin, notamment, je pense aux hommes, d'ailleurs, enfin, il y a des femmes aussi qui le font, mais il y a des hommes qui font des enfants, puis après, ils se tirent, parce que, justement, ils n'assument pas d'avoir fait ce don symbolique, enfin ce don à la fois biologique, mais
d'accord, attendez, beaucoup... vous savez, plus les questions sont longues, moins on les comprend. Donc je pense qu'on a à peu près saisi sur votre question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre ?
Non, mais je pense que vous avez. Merci de poser cette question. C'est vrai que si on donnait le sentiment ou que on n'attache pas d'importance au fait que quand un enfant naît, on dit c'est un garçon, c'est une fille, et que cet enfant, en même temps qu'on désigne son sexe, on dit qu'il n'est pas enfermé dans ce sexe, etc., qu'il est aussi un représentant à part entière de notre espèce. Si on donnait l'impression qu'on n'attache pas d'importance au fait qu'on est des mortels, qu'on se reproduit, et que c'est pour l'immense majorité des gens très important, justement, de donner la vie, transmettre la vie, je pense qu'on aurait échoué. C'est pas du tout le propos que vous avez entendu. Ce dont on a parlé, c'est d'autre chose. C'est d'abord de la question de l'homosexualité. Je pense que c'était important de le dire parce que dans le document de l'UNAF, on n'évoque pas beaucoup l'homosexualité. On n'en parle pas beaucoup de ce qui s'est passé pour les homosexuels depuis un siècle ou deux. Or, Madame Boutin rappelle souvent que les homosexuels peuvent se marier avec l'autre sexe. Vous savez, c'est... Donc, mais c'est vrai, mais c'est ridicule de le dire aujourd'hui, mais c'est important de rappeler que pendant très longtemps... Effectivement, la façon dont les homosexuels ont eu des enfants, c'était en se mariant avec une personne de l'autre sexe. C'est très important pour comprendre que jamais l'homosexualité n'a été séparée de la question du désir d'être père ou d'être mère, des joies de la maternité ou de la paternité, des responsabilités de la transmission. Tout cela, l'immense majorité des homosexuels le vivaient en se mariant avec une personne de l'autre sexe, en ayant un enfant biologiquement avec cette personne et en vivant leur vie homosexuelle en dehors. Ce qui s'est passé, qui est quand même très important, c'est que avec l'histoire qui vous a été rappelée, cette contrainte à la double vie a été mise en question. On peut pas parler, on parle pas comme ça, on n'est pas en train de jouer au domino en ce moment. On parle d'une histoire lourde, d'une histoire complexe, d'une histoire qui a été une histoire quand même de souffrance et d'émancipation, il faut jamais l'oublier. Ma génération, moi j'ai 60 ans, je n'ai jamais honte de le dire, j'appartiens à la génération du baby-boom, c'est-à-dire celle qui, justement, a voulu rompre avec cette double vie, ce qu'on appelle la sortie du placard, si vous voulez. Et cette génération, eh bien, elle a finalement considéré que, puisqu'on ne pouvait plus avoir des enfants dans les mariages, parce qu'on ne voulait plus de cette comédie, en quelque sorte, il y avait peut-être une fatalité à renoncer aux enfants. Et autour de moi, les gens de mon âge, les homosexuels de mon âge, très souvent n'ont pas d'enfants. Mais cet éloignement à la question de la paternité ou de la maternité ne pouvait pas durer éternellement. C'est ça qu'on comprend quand on a une perspective historique. Parce qu'elle n'a jamais existé avant. Les homosexuels ne sont pas des personnes stériles, encore une fois. Ce ne sont pas des personnes qui n'ont pas d'intérêt pour la question de la transmission de la vie ou pour la parentalité. Donc dès la génération qui a suivi la mienne, c'est un peu ça qui se passe, cette question est revenue. Donc on n'est pas en train de se dire est-ce qu'on prend tel modèle sur notre schéma et on se dit est-ce que ça va être parfait. On se dit, voilà, est-ce qu'on accepte cette évolution qui fait que au lieu d'avoir des enfants comme ils en avaient autrefois, c'est-à-dire dans une situation où de double vie, où ils ont été contraints de cacher sa vie sexuelle et de vivre avec une personne qui n'était pas la personne qu'on aimait ou qu'on désirait, mais ça n'empêchait pas de faire des enfants, il ne faut pas non plus s'imaginer des choses folles. Bon, est-ce qu'on peut admettre qu'aujourd'hui, ce désir d'enfant puisse s'exprimer en cohérence, en quelque sorte, avec le fait d'avoir le courage d'être soi, hein, et avoir le courage d'être à la face du monde et de dire je suis une personne homosexuelle, j'ai le même sexe et il est possible pour moi d'être parent. Parce que, au fond, dans les différentes configurations que Martine Gross et d'autres sociologues, il y en a peut-être qui sont ici, ont étudiées, on voit bien que les homosexuels, contrairement à ce qu'on a l'air de dire en ce moment, n'ont rien inventé, je dirais. Il y a des configurations familiales où les homosexuels font des procréations à l'ancienne, je dirais que presque. Bon, c'est pas sous la couette, hein, mais ça peut l'être d'ailleurs. Mais avec des coparentalités. Mais le fait de distinguer procréation et filiation, encore une fois, tout ce qui vous a été dit, c'est que l'adoption a été inventée bien avant que l'adoption homoparentale se développe. De même, la science médicale à la procréation. Voilà la question. Alors après, vous posez une question qui est différente, en quoi y aurait-il, pourquoi faudrait, enfin, je sais pas, y aurait un modèle en quelque sorte qui vous paraîtrait plus, plus.
Oui, la place du.
Voilà. Alors je donne.
Je pense aussi qu'il faut pas faire comme si on n'avait pas tous assisté de notre vivant à une révolution incroyable qui est la révolution de la contraception. La contraception change fondamentalement les données. Dans le domaine de la procréation, c'est la part de la fatalité biologique dans la procréation a pratiquement complètement disparu, et la contraception efficace fait qu'il y a une rupture possible entre conjugalité, procréation, et donc effectivement le modèle aujourd'hui n'est pas le modèle nécessairement de qui existait il y a 50 ans. Sans compter que l'aide médicale à la procréation permet des choses qui n'existaient pas il y a encore 30 ans. Et donc, on peut avoir des enfants en étant seul, on peut avoir des enfants en étant stérile, on peut avoir des enfants, voilà. Donc, il y a des modalités et de nouveaux agencements pour la procréation dont on est obligé de tenir compte. Donc, on ne peut pas faire comme si tout ça n'avait pas fortement évolué. On ne parlerait même pas de ce dont on parle aujourd'hui s'il n'y avait pas eu les découvertes techniques des 30 dernières années, hein, je pense.
Bonjour, m'appelle Stéphane Lavignotte, je suis pasteur de la maison, de la mission populaire de la Maison Verte dans le 18e arrondissement, où j'ai la joie d'accompagner des couples, qu'ils soient homo ou hétéro, pour des bénédictions de leur vie après un pax ou un mariage. J'aurais trois questions rapides à poser, j'espère qu'elles seront rapides. La première est plutôt la question posée aux juristes. Si la PMA est ouverte aux couples mariés, comment se fait-il qu'il ne suffise pas d'ouvrir le mariage aux couples homosexuels pour qu'ils aient accès automatiquement à la PMA ? La deuxième question est plutôt une question à Martine Gross et à Agnès Finn. C'est une question de nomination des différents parents, des parents multiples dans les familles. Il m'a semblé que Martine Gross, contrairement à mes souvenirs des débats à la PGL, évoquait parler de deux mères ou de deux pères, alors que Agnès Finn parlait plutôt de la figure du beau-parent. Je voudrais savoir s'il y a eu une évolution dans la réflexion sur la question de la nomination des différents parents dans la famille et qu'est-ce que ça recouvrait comme évolution. La troisième, plutôt à Irène Théry. Elle a travaillé il y a quelques années avec mon directeur de thèse, Olivier Abel, sur ces questions-là, qui aujourd'hui s'est remontée contre l'évolution de sa position en disant Irène Théry a rejoint le camp de ceux qui veulent une famille élective, c'est-à-dire une famille où on choisit ses membres. Pouvez-vous me donner des arguments pour l'aider à le convaincre?
Alors les juristes d'abord, la PMA pour les couples homosexuels.
Pourquoi est-ce que le mariage n'ouvre pas de plein droit l'accès à la procréation médicalement assistée par rapport à l'adoption ? C'est très simple, c'est parce que dans le Code de la santé publique, il y a une disposition qui n'autorise que l'homme et la femme vivant en couple à avoir accès à la PMA. Donc si on veut atteindre une spérité pathologique, oui en plus, bref. Oui, mais de toute façon, même si on n'avait pas cette formule qui a été réitérée par la loi du 7 juillet 2011, donc pour bien écarter l'accès à l'assistance médicale à la procréation pour les couples de même sexe, serait difficile quand même de prétendre interpréter le code de la santé publique qui vise l'homme et la femme vivant en couple comme étant soit deux hommes ou soit deux femmes. Donc de toute façon, il vaut mieux le dire que de laisser interpréter un texte comme étant... C'est pour ça qu'on a besoin d'une loi. Et c'est pas la même chose pour l'adoption.
Pour la question qui m'a été posée, oui, en effet, il y a une quinzaine d'années, les couples d'hommes ou les couples de femmes ne se désignaient pas eux-mêmes ou assez peu souvent par des termes comme « nous sommes deux mères » ou « nous sommes deux pères ». Mais dans les enquêtes que j'ai pu mener par la suite, et j'en ai mené régulièrement tous les 5-6 ans environ, ben j'ai noté une évolution de la nomination, de la désignation. On se dit plus facilement aujourd'hui « deux mères » ou « deux pères ». Et il me semble que c'est parce qu'il y a davantage... la pensée que être parent, ce n'est pas nécessairement avoir procréé. C'est l'engagement parental, et ça, c'est quelque chose, c'est un discours qu'on retrouve beaucoup chez les couples de femmes et les couples d'hommes. On est parent, même si on n'a pas procréé, mais si on a, en revanche, si on a été partie prenante du projet parental qui a permis la venue au monde d'un enfant.
Je crois qu'il y a une petite confusion, que j'ai sans doute, parce que j'ai pas été assez claire, sur la question du beau-parent. C'est-à-dire qu'en fait, dans les coparentalités, par exemple, un couple d'hommes et un couple de femmes s'organisent pour avoir un enfant ensemble. D'après les enquêtes des thèses, par exemple, d'étudiants qui ont travaillé, on voit que, quelquefois, tous les adultes en question ne sont pas concernés de la même manière par le désir d'avoir un enfant. Par exemple, il y a des cas où il y a un homme qui a vraiment envie d'avoir un enfant, qui se met en rapport avec un couple de femmes qui, elles deux, veulent être vraiment aussi parents. Donc, ils sont trois, là, à revendiquer le statut de parent et sans doute revendiquer le statut de parent légal. En revanche, l'homme, par exemple, peut vivre avec un compagnon, c'est le cas, enfin, je pense à des enquêtes précises, hein, et dire, écoute, non, moi, j'ai pas envie d'avoir un enfant, je partage pas ton projet, mais si tu as un enfant, évidemment, je m'en occuperai. Et c'est en ce sens-là que je pense que les modèles qu'on a dans les familles hétérosexuelles sont intéressants, parce que on voit qu'il n'y a pas de spécificité, là, proprement homosexuelle. C'est-à-dire que, dans les recompositions après divorce, le nouveau compagnon de la mère il n'a pas choisi d'avoir un enfant, mais il est là, il l'élève, il s'en occupe, et voilà. Et il peut avoir un mini statut juridique ou pas en avoir d'ailleurs. Hein, c'est pas toujours réclamé. Hein. On peut avoir un statut juridique de beau-parent à l'anglaise si vraiment on en a besoin. Hein. Mais donc voilà, je pense pas qu'il y ait une divergence sur la question. Ce que je crois moi qui est vraiment très compliqué et à la fois intéressant, c'est que il y a effectivement plus de deux parents, quelquefois trois, quelquefois quatre. Hein, et donc, la question, c'est de savoir quel est le statut juridique revendiqué par chacun. Hein, voilà, c'est ça qui est un peu compliqué.
Oui, moi, je parle souvent ces derniers temps, parce que avant, j'ai pas l'air, du changement de mes positions, parce que je trouve que c'est pas parce que c'est moi, mais c'est intéressant d'essayer de comprendre comment on change. Parce qu'en fait, nous changeons tous. Nous changeons tous parce que le monde change. Voilà. Le dire ne veut pas dire qu'on suit le changement bêtement, stupidement, pas du tout. Ça veut dire que, c'est Marcel Mauss qui disait ça, les institutions véritables vivent, c'est-à-dire changent sans cesse. Et il y a des moments qui sont des moments de grands changements, et on met quelquefois d'ailleurs du temps à comprendre dans quoi on est. Hein. Le monde humain, c'est un monde mobile. Alors, j'ai changé, je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, parce que je pense que la question des sexualités n'abolit pas celle des sexes. Et je pense que quand on est homosexuel, on n'est pas moins conscient et on n'a pas moins à faire avec le fait que les femmes accouchent et les hommes n'accouchent pas, et que cette asymétrie ne crée ni socialité naturelle ni rien, et qu'elle peut être créatrice de violence. Et d'ailleurs, on le voit bien en ce moment, on parle d'assistance médicale à la procréation pour les couples de femmes, mais ça ne veut pas dire que cette question réglerait par elle-même la gestation pour autrui pour les couples d'hommes. Hein. Il faut avoir des discussions distinctes parce que les enjeux sont évidemment différents. Ça ne veut pas dire, quand je dis ça, c'est pas pour écarter l'une au profit de l'autre, je me suis prononcée moi-même pour une GPA éthique. Mais c'est pour dire que parler de mon changement, c'est essayer d'expliquer que j'ai approfondi, d'abord que j'ai évolué, je pense que parce que nos normes, nos valeurs collectives, nos pratiques évoluent. Hein. Il y a 30 ans, je ne crois pas que les couples homosexuels réclamaient le mariage. Donc c'est un changement qu'il faut arriver à comprendre. Alors là-dedans, ce qui est dommage pour Olivier Abel, que j'adore, c'est de croire que je me suis rendue à la famille élective. C'est-à-dire, en gros, il aimait bien que je sois pour l'institution. Et la famille élective, c'est un peu le libéralisme. Vous savez, chacun choisit, ce qu'on entend beaucoup en ce moment, hein, à propos de l'homoparentalité. Tout de suite arrive chez les opposants l'image, voilà, on va faire son marché. Enfin, vous avez entendu ces choses comme moi. Donc, moi, ce que je pense, c'est que on a sous-estimé, et là-dessus, Agnès et moi, qui nous connaissons et qui travaillons en commun depuis des décennies, nous le savons, on a sous-estimé cette révolution merveilleuse qui est la révolution de l'égalité de sexe. Je crois que on ne peut pas comprendre les transformations générales de la famille, de la parenté, sans comprendre que nous sommes les héritiers d'un modèle de famille et de parenté dans lequel la hiérarchie des sexes était consubstantielle vraiment à ce modèle. Et c'est très important de comprendre que les questions de l'ordre sexuel, et en particulier justement de l'homosexualité, sa représentation, n'étaient pas séparables de ce modèle de famille, ce modèle de mariage, etc. Ce qui est terrible en ce moment, vous comprenez bien que c'est le sens de notre travail, c'est qu'on nous parle de la famille, du mariage, etc., comme si tout ça n'avait pas changé depuis Adam et Ève, en gros, et que tout à coup, des homosexuels viendraient bouleverser tout ça. Alors que ce que nous essayons de dire, c'est qu'il y a des révolutions, mais qui sont des révolutions, j'ai appelé de velours, des révolutions qui donnent des racines historiques profondes au changement. Il y a des métamorphoses institutionnelles. Par exemple, j'ai évoqué, moi, la métamorphose du mariage. Agnès a évoqué la métamorphose de la filiation. On a évoqué, les transformations rapides, la critique rapide. Et nous sommes des personnes critiques. La preuve, vous avez entendu nos critiques, qu'on a bien du mal à faire entendre, du modèle d'assistance médicale à la procréation français actuel. Voilà, donc, je pense que... C'est un peu court, jeune homme, dirais-je, de prétendre que quand on soutient les revendications homoparentales, c'est qu'on a en quelque sorte baissé les bras devant l'individu tout-puissant, et la force des désirs pour chacun, etc. Je crois plutôt qu'on est conscient que, vous voyez, on peut être très critique par rapport à nos démocraties, mais quand même on peut être fier aussi quelquefois de ce qu'on vit. Et moi, je pense que, au fur et à mesure de ces dernières décennies, j'ai pris conscience de l'importance de cet enjeu de l'homosexualité puis de l'homoparentalité, qui n'était pas juste une question de vie individuelle, mais que ça touchait vraiment le cœur de nos institutions. Et de ce point de vue-là, essayer de faire partager cette conviction, c'est un travail de tous les jours et qu'on va continuer à mener.
Alors, monsieur, avec la... Allez-y, monsieur.
Oui. Benjamin Moron, doctorant, juriste et doctorant à l'Université Panthéon-Assas. Une question, tout d'abord, sur les juristes, pour les juristes. Est-ce que, de la même façon que le projet de loi nous permet de mieux comprendre en droit la filiation, est-ce qu'il ne va pas nous permettre aussi de mieux comprendre les relations entre les couples, et notamment l'une des obligations légales, l'obligation de fidélité, qui a été entièrement désactivée par la Cour de cassation? Est-ce que l'extension aux couples de même sexe du mariage ne va pas aboutir à une réactivation du devoir de fidélité? Première question.
Laurence,
attendez,
Laurence,
expliquez-vous. C'est pour toi. Vous n'allez pas nous faire ça.
Attendez, une question à la fois, parce que celle-là est très dure.
Je vais tout de suite me défiler sur Anne-Marie, parce que moi, je ne peux pas du tout anticiper sur la réactivation du devoir de fidélité. Vraiment, j'en ai absolument aucune idée. Mais peut-être qu'Anne-Marie va répondre.
Je me lève au moins pour pouvoir avoir la force de vous répondre. Alors, je pense que d'abord,
il est peut-être un peu exagéré de dire que la Cour de cassation a désactivé, comme vous dites, ça, bon, je ne commande pas le terme, mais le devoir de fidélité, c'est ça que vous avez dit, non, désactiver le devoir de fidélité dans le mariage. Bon, je crois que si on creuse bien, et notamment, excusez-moi, monsieur, de reprendre un petit cours sur le divorce du droit de la famille, mais si on creuse bien, il y a quelques décisions emblématiques. C'est-à-dire, vous avez cette décision emblématique sur le courtage matrimonial, vous avez, bon, vous les connaissez. Mais si on creuse bien le droit du divorce, on se rend compte que le divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du Code civil est quand même relativement souvent fondé sur la sanction de l'adultère. Et donc, ça signifie, quand on regarde la sociologie des divorces, je ne sais pas, là vous avez donc un praticien qui peut vous répondre mieux que moi, ça signifie quand même que eh bien, le divorce n'est pas considéré comme une chose complètement anodine dans le droit des couples aujourd'hui et complètement désactivé par la... Le devoir de fidélité, pardon, n'est pas considéré comme une chose complètement anodine et désactivée et non suivie en pratique. Quant à se dire que l'ouverture de mariage aux personnes de même sexe allait, alors en droit, si je comprends bien, non pas en sociologie, en droit, donc, réactiver le devoir de fidélité, ben, je ne vois pas du tout pourquoi, et ce serait même dangereux que la Cour de cassation, ou la jurisprudence, ou les juges, qui vous voulez, adoptent dans sa jurisprudence une façon de traiter différente les couples de même sexe et les couples de sexe différents. Donc, nécessairement, la manière d'apprécier la notion de fidélité et la notion de faute dans le divorce devra être la même, qu'on soit de même sexe ou qu'on soit de sexe différent. Sinon, les pires craintes sont à venir.
L'un des arguments de l'UNAF, c'est de dire que le projet de loi va porter atteinte à la différence homme-femme. Et à chaque fois que vous avez essayé de répondre, non pas en vous attaquant à l'argument de la différenciation homme-femme, mais en disant, non, en l'espèce, ça ne va pas porter atteinte à cette distinction. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas justement critiquer cette distinction homme-femme, notamment en se reposant sur des personnes intersexes qui, biologiquement, n'ont pas de sexe? Et pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de cet argument-là? Est-ce que c'est parce qu'il est trop tôt et que ça décrédibiliserait vos autres arguments tout à fait pertinents?
Un argument difficilement utilisable, mais peut-être que quelqu'un veut se lancer. Oui,
oui. Non, ce qui paraissait important, et dans le document de l'UNAF, en plus, moi j'ai été vexée personnellement parce que je ne sais pas où est monsieur de l'UNAF. Bon, j'aurais aimé le regarder en face, mais. Parce que l'UNAF n'emploie pas le terme de différence des sexes, mais de distinction de sexe. Alors j'ai écrit un gros pavé de 700 pages qui s'appelle la distinction de sexe. Et pourquoi je dis que j'étais vexée? Parce qu'une des raisons d'employer ce terme, c'est pas justement, on met pas des termes juste pour faire joli. C'est que justement, nous sommes héritiers d'une tradition. On en a, je crois que toute la table ronde en a parlé, mais c'est surtout Jérôme en commençant, qui a tendance à confondre la question de la différence des sexes, différence des rapports sociaux de sexe, avec les rapports hommes-femmes, c'est-à-dire les relations de sexe opposés, souvent ramenées à la question de l'hétérosexualité. Et donc les anthropologues ont formé, je suis pas l'inventeur de cette notion de distinction de sexe, ont forgé cette notion pour dire qu'en fait les relations sociales, ça passe chez les humains par la médiation de statuts. Qui peuvent être des grands statuts comme la parenté ou des statuts plus volatiles, comme par exemple le statut de parler à une conférence ou d'écouter, etc. Bon. Et donc, ces statuts sont référés aux distinctions masculin-féminin, et ces distinctions, dans toutes les sociétés, n'organisent pas que des relations de sexe opposé. Pour les sociologues, les relations de même sexe, masculin-masculin ou féminin-féminin, sont des relations qui ne sont pas moins importantes, pas moins sociales, pas moins instituées que les relations de sexe opposé. Et donc, et même dans la parenté, il y a des relations de sexe opposé, mais il y a des tas de relations de même sexe, sœur-sœur, oncle-neveu, etc. Donc, l'enjeu, c'est effectivement, c'est important de le dire, non pas de neutraliser la distinction masculin-féminin, mais que des relations qui étaient considérées comme, par définition, des relations de sexe opposé, puissent s'élargir, en quelque sorte, à des relations de même sexe, la relation de couple ou la relation parentale. Donc, déjà, c'est pas beauté en touche que de dire l'enfant aura deux pères ou il aura deux mères, on peut discuter, mais il n'aura pas du parent asexué, du parent A, du parent B, etc. Donc ça, c'était notre premier souci, c'était de rappeler ça. Et parce que quand on le rappelle, ce qu'on dit immédiatement,
c'est que ces deux pères ou ces deux mères, vous croyez quand même pas qu'ils ne se sont jamais posé la question de la réponse qu'ils vont donner à l'enfant. Par exemple, ils leur dire, et moi, j'ai pas de maman, moi, j'ai, comment je suis née, etc. Les associations homoparentales, la PGL, la DFH, Enfants Arc-en-Ciel, et après elles, les sociologues, les anthropologues qui ont fait de nombreuses études sur les familles homoparentales, montrent que le souci de répondre à cette question, il est partout. Mais que, justement, on peut aujourd'hui apporter une autre réponse que simplement en se rapportant en quelque sorte au trio père-mère-enfant qui serait censé représenter à lui tout seul, en quelque sorte, la différence des sexes, des âges, des générations et en quelque sorte la condition humaine. Déjà, Lévi-Strauss disait que c'est pas avec ça qu'on fait une famille, qu'il faut ajouter que, justement, il faut encore une autre personne parce que, justement, pour faire une famille, comme il y a un interdit de l'inceste, il faut que le couple des parents ne peut pas être fait de n'importe quel mâle et de n'importe quelle femelle, etc. Donc, ce qu'il est question de dire... il faut pas botter en touche. C'est bien que il sera assumé qu'un enfant peut avoir deux pères ou deux mères, ce qui n'enlève pas un questionnement sur d'abord la réponse à l'enfant sur le fait que comme tous les enfants, il est né des deux sexes. Et ça, je ne connais pas de cas où les gens soient tentés, c'est ce qui vous a été dit et redit, de le dénier. C'est au contraire toujours expliqué aux enfants. Et donc, du point de vue d'une interrogation, on peut dire existentielle, hein, sur la finitude, sur le fait qu'il y a un certain rapport entre être sexué et être mortel, bien, si on explique son histoire à l'enfant, eh bien, il n'est pas en situation différente d'un autre pour penser qu'il est issu des deux sexes. Et par ailleurs, l'autre question importante, c'est effectivement que pour les anthropologues, la famille, ça commence pas à deux générations. Ça commence pas dans ce face-à-face parent-enfant dont on nous parle tout le temps. Ça commence à trois générations. C'est-à-dire, c'est la transmission, la famille. Et dans la transmission, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer avec le développement des familles homoparentales et surtout leur inscription dans le droit, c'est en quelque sorte, non pas les lignées asexuées qu'on nous imagine ou les lignées homosexuelles qu'on nous imagine, mais c'est en fait une forme, si vous y réfléchissez, assez complexe de métissage entre relations homoparentales et hétéroparentales. L'enfant qui a deux mères ou deux pères, pardon, un enfant qui a deux pères, il a... aujourd'hui, il aura le plus souvent deux grands-mères aussi. Hein. Il faut jamais oublier ça. Et c'est-à-dire dans son identité, y compris telle qu'elle est inscrite dans la généalogie. Hein. Et à l'inverse, ce que je veux dire, c'est que quand on prend la suite des générations, il va y avoir ce jeu complexe. Et donc, il suffit, et ça a toujours été un souci de l'anthropologie, en fait, de regarder un peu plus là. De mettre le cercle un peu plus large, en quelque sorte, pour que, à la fois au plan de l'histoire concrète et au plan même de la représentation symbolique, la distinction masculin-féminin soit présente. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est fasciné par une sorte de bicatégorisation des sexes. Hein. Si c'est ça votre question, je pense que, ultérieurement, le fait de distinguer des relations de même sexe de sexe opposé n'empêche pas, parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est en fait de comprendre l'identité comme une identité narrative. Hein. Répondre à la question qui s'est raconté une histoire, je crois que c'est ce qui vous a été dit. Et donc, les situations, par exemple, des trans, hein, qui passent d'un sexe d'état civil à un autre, etc., ces situations ne sont pas du tout exclues de la réflexion. Simplement, je pense que on ne peut pas traiter tout à la fois, et je trouve que c'est d'ailleurs une tactique aujourd'hui très évidente de toujours vous amener sur un terrain différent. Moi, j'étais à un débat à Londres il y a deux jours, et bien voilà, on m'a posé la question des huit parents, il faut faire attention à ça. C'est pas pour fermer le débat. Je pense que la question de la transidentité, c'est très important. D'autres questions sont très importantes. Mais c'est pour que ça ne soit pas l'occasion de ne pas traiter la question, on va dire, relativement plus simple qui nous est posée aujourd'hui.
Oui. Je voulais juste rajouter, c'est vrai que c'était une question très intéressante. Même moi, je la prends pour étant une question très importante. Mais comme on dit en anglais, one step at a time. Il y avait un article très intéressant dans le New York Times il y a deux jours sur la question de l'intersexe. Et d'ailleurs, je vais m'empresser de le donner à mes étudiants à Assas, parce que je suis à Assas aussi, dès le début du deuxième semestre.
Donc il nous reste 10 minutes.
Je voudrais.
Votre question. Alors. Oui.
Françoise Zanaben, ethnologue. Je voudrais revenir sur une question qui a été en filigrane tout le temps dans ce que vous avez dit les uns et les autres, et même dans les questions posées, c'est la question de l'anonymat. Parce que on sait très bien qu'en France, il y a l'anonymat sur les dons, sur même sur les origines des enfants adoptés. Il y a aussi des pays, même qui refusent, des pays qui vous donnent des enfants en adoption, mais qui refusent de donner une origine, l'origine des enfants qu'ils donnent en adoption. En plus, on sait aussi que dans les sociétés, d'autres sociétés que les nôtres, où existe l'adoption, où existent toutes ces façons de circulation d'enfants entre les groupes, eh bien, il y a quelque chose de fondamental dans ces sociétés, que jamais l'origine de l'enfant n'est cachée, n'est inconnue. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Parce que je pense que c'est dans la loi. Est-ce qu'il va être question de cet anonymat? Est-ce que c'est pas une question de bioéthique? Et dans les lois de bioéthique, où et quand va être posée véritablement cette question? Est-ce qu'elle va être reprise dans les discussions de loi de la bioéthique ou maintenant dans la loi?
Je crois que tu poses une question qui était tout à fait le sens de mon intervention, c'est-à-dire qu'en fait, toute notre réflexion, c'est de déspécifier les questions posées par les familles homoparentales. C'est de montrer qu'en fait, elles explicitent, très clairement des questions qui sont passées sous la table et qui concernent l'ensemble de notre société. Et en particulier, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que la question de l'anonymat qui a donc été instaurée par les lois de bioéthique 1994 n'a pas été du tout remise en question l'année dernière au moment de la révision des lois de bioéthique. Il y a un verrou absolument énorme sur la question. Et ce qui est très intéressant en ce moment, c'est justement que les débats que nous avons aujourd'hui et qu'on aura à l'Assemblée parlementaire et le nouveau débat de la loi sur la famille qu'on nous promet pour le mois de mars va se heurter évidemment à cette question. Alors il y aura peut-être deux positions, ceux qui vont dire c'est pas le moment et ça nous dépasse, les lois de bioéthique ont été revues il y a 2 ans. Mais je pense que justement le travail qu'on a à faire, nous, c'est de dire c'est la même question. C'est la même question. Donc ne divisons pas, ne réglons pas la question de la filiation des donneurs en mettant d'un côté les familles homosexuelles et de l'autre le reste de la société. C'est la même question. Et donc c'est ça qu'il faut effectivement. Tu as raison. Je crois que c'est le débat, il est ouvert et peut-être qu'il va rebondir enfin d'une autre manière à la faveur du débat actuel sur le mariage homosexuel.
Oui, mais je suis complètement d'accord. C'est peut-être justement parce que cette question était posée de manière beaucoup plus flagrante et elle était absolument incontournable. Si l'amendement ou un texte est un jour débattu ouvrant la procréation médicale assistée aux couples de même sexe, il est évident que ça sera absolument incontournable. Or, on sait que c'est une question que la société, enfin le législateur, n'a pas voulu aborder en 2011 avec des oppositions qui venaient pas du tout du camp, qui venaient d'un camp médical, enfin d'une origine médicale essentiellement. Donc, voilà, il me semble qu'aujourd'hui, c'est un peu le nerf de la guerre, que peut-être c'est fait partie des raisons pour lesquelles la procréation médicale assistée, ouverte au public, ne sera pas débattue, ou en tout cas sera repoussée, peut-être en mars, mais peut-être plus tard, parce qu'évidemment, tout va se jouer là. Parce que, pour répondre à la question que posait le monsieur tout à l'heure, il est évident que cette façon... il ne s'agit pas de séparer comme ça la procréation et la filiation et de laisser tomber la nature. Pour reprendre des mots un peu plus simples, je crois que le droit, la société est aujourd'hui en mesure de tenir compte des liens de procréation, de leur donner une forme, une transparence, de leur donner une forme juridique. Ce serait une façon de reconnaître aujourd'hui une transparence sur les origines. Donc on pourrait très bien rendre compte de la nature de ces liens de procréation sans les confondre avec des liens de parenté. Et c'est justement cette question-là qui est posée de manière cruciale par la question de la filiation pour les couples de même sexe. Donc il s'agit pas d'écarter la nature, il s'agit de lui donner une autre modélisation et une autre forme, une autre traduction sociale.
Merci. Alors, je m'appelle Céline Puil, je suis sage-femme et je suis aussi étudiante à l'UHESS. J'avais 2 questions. En fait, une Donc la première, assez simple à poser, il y a une vulgate oedipienne, comment vous répondez aux gens qui vous remettent l'Oedipe? Voilà, une question très claire.
Je peux peut-être y répondre si vous voulez.
Comment?
La réponse à la question suivante.
Parfait. Ensuite, la question un peu plus compliquée à poser, c'est le fait que... j'ai l'impression que quand l'humain découvre une dualité, il la hiérarchise. Par exemple, on fait une dualité entre hommes et femmes et on hiérarchise. Il y a plein de mécanismes qui font que les femmes, du coup, sont opprimées, machin. Et par exemple, et cette dualité, elle fonctionne aussi pour homo et hétérosexualité. Donc je me suis demandé si il y avait une hiérarchie lorsque on bicatégorisait. Voilà.
Lorsqu'on quoi ?
Bicatégorisait.
Mais alors pour les dips, c'est peut-être
Serge, réponds sur le dip.
Justement, j'allais faire une petite remarque à ce sujet parce qu'il me semble qu'il y a quelques questions qui tournent autour de ça et auxquelles il n'a pas été répondu. Donc je suis Serge Effès, je suis psychiatre et psychanalyste à Paris et j'ai un peu travaillé sur ces questions de filiation homoparentale. Il me semble que justement, quand on ramène la nature dans ce débat, du côté de l'enfant, comme ça a été posé plusieurs fois, on la ramène du côté de ce que Freud appelle la scène primitive. C'est-à-dire la scène primitive, c'est ce moment d'accouplement entre un homme et une femme qui se solde par la venue au monde d'un enfant, et qu'il y a quelque chose qui est très confondu dans la théorie oedipienne entre scène primitive et Oedipe, justement, c'est-à-dire l'accès à la triangulation et à la différence des sexes que l'enfant fait plus tard, à l'âge de 5 ans, à partir de ce qu'il a compris de la scène primitive. On ne peut pas en vouloir à Freud d'avoir confondu ces deux éléments parce qu'ils étaient effectivement calqués dans ce qu'était l'avenue au monde d'un enfant à cette époque-là. Mais on aurait tort de penser que le questionnement sur les origines d'un enfant, et ça Freud ne l'a jamais dit, se résume à la question de la scène primitive. Autrement dit, le questionnement sur les origines qui est fondateur pour le psychisme des enfants, c'est une question qui n'est jamais aboutie. C'est une question qui commence le jour de la naissance et qui se termine le jour de notre mort. C'est-à-dire, c'est un questionnement, comme le disait Irène Théry, narratif. La question de nos origines, elle est toujours devant nous. Elle n'est pas derrière. Et elle ne peut pas se résumer à cette question de l'accouplement entre un homme et une femme. Ce qui veut dire, pour dire les choses plus concrètement, que dans ces situations homoparentales, et j'ai entendu beaucoup d'enfants qui sont dans ces situations-là, eh bien, comme tous les enfants du monde, ils racontent des histoires, ils se racontent des histoires. Parce que c'est très compliqué pour un enfant d'arriver à se raconter ces histoires, y compris les enfants dans les familles sous la couette, comme on dit. Ils s'inventent des pères qui sont des rois imaginaires qui sont dans d'autres pays, le fait qu'ils ont accouché de femmes qui ne sont pas leur mère, mais qui ont été substituées par leur mère à la naissance et parce qu'on les avait posées sur le porche d'une église. Enfin, vous connaissez toutes ces histoires-là. Parce que cet accès aux origines, il est compliqué et qu'on est obligé de se raconter en permanence des tas d'histoires. Ce qui est très émouvant, je dirais, dans les familles homoparentales, c'est que ce questionnement, il est toujours ouvert. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui revient sur le tapis, où on remet en jeu, si je peux dire, les différents protagonistes de l'engendrement d'un enfant, le donneur anonyme. Moi, j'ai assisté à des scènes, des séances particulièrement incroyable, avec deux mères et des enfants, où tout à coup, le donneur anonyme revenait sur scène et chacun commençait à fantasmer et à bricoler quelque chose autour de ce donneur. Et tout le monde échangeait des fantasmes autour de ce donneur et qu'ils arrivaient finalement à créer, à tisser une histoire autour de ce donneur qu'ils ne connaîtraient jamais puisqu'il était anonyme. Donc, pour résumer, ce que je voudrais dire, c'est que cette vulgate oedipienne sur la nature où notre origine se résumerait à cette fécondation, ça n'existe pour aucun enfant, quel que soit le contexte dans lequel il se développe.
Oui. Bonsoir. Moi, je voulais juste revenir sur la question...
Dernière question.
Sur la question, justement, des statuts juridiques qui a été abordée à plusieurs reprises. Et je pense notamment parce qu'il y a une vidéo qui a pas mal circulé là ces derniers jours, et surtout aujourd'hui, d'un témoignage de Pablo Seban, qui raconte qu'il avait été auditionné en tant que étant fils d'une famille homoparentale, et il disait que il avait donc deux mamans et un père biologique qui était connu, mais qui avait dû renoncer à le reconnaître pour permettre aux deux mères d'être pleinement mères d'une certaine manière. Moi, la question que je me posais, c'est justement dans ce nouveau projet de loi et dans la question donc de la pluriparentalité ou des familles homoparentales, est-ce qu'il peut y avoir, d'une certaine manière, des statuts juridiques qui cognent entre l'adoption, par exemple par une mère sociale d'un enfant né d'une mère biologique, et d'un donneur connu qui voudrait reconnaître l'enfant et qui serait donc de toute façon le père biologique? Est-ce que ça cogne? Est-ce que ces deux statuts juridiques peuvent cogner, ou est-ce qu'ils peuvent être égaux, ou peut-être l'un supérieur à l'autre?
Ces questions sont résolues par le Code civil. Alors, le point que vous évoquez, l'hypothèse d'un père biologique qui renoncerait à sa paternité légale pour laisser la place à la mère, c'est une situation de fait, mais qui, en droit, ne pourrait pas avoir lieu. On ne peut pas renoncer, les droits relatifs à la filiation sont indisponibles, donc on ne renonce pas à sa paternité. Donc ce renoncement forcé ou joué ou financier, on ne sait pas, est illégal. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans l'hypothèse où il y aurait, par exemple, une procréation naturelle avec un père, finalement une procréation, on pourrait dire, soit naturelle, soit artisanale, donc pas médicalisée, avec un père biologique qui existe, qui ne se manifeste pas, qui ne reconnaît pas l'enfant, mariage des deux femmes, finalement, la femme de la mère adopte l'enfant de l'autre, est-ce que le père biologique pourrait venir ensuite en disant « je suis le père biologique et je reconnais l'enfant » La réponse est oui. Mais qu'est-ce que ça va changer pour l'adoption? La réponse, c'est rien. Parce que le Code civil prévoit quand même, et ça c'est une certaine logique, que l'établissement d'une filiation ultérieure à l'adoption, et c'est vraiment là le cas, n'a aucun effet sur l'adoption.
Très bien. Eh bien, je vous remercie de votre présence. Une seconde. Je passe la parole à Madame Françoise Sabon pour clore ce colloque. Je remercie tous les intervenants et mon co-président, Monsieur Portelli.
Bon, Jennifer, tu as remercié tous les participants. Je les remercie aussi au nom des cercles de formation. Et je voulais vous dire que vous pourrez trouver le document d'analyse qui contient les textes des 8 conférenciers de ce soir sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales à l'adresse de l'inscription, je la rappelle, ehess.fr/mariage/. Et je voudrais aussi remercier... Voilà, c'était l'adresse d'inscription. Et je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui nous ont très gentiment aidés à organiser très concrètement votre venue dans cet amphithéâtre. Je vous signale par ailleurs que les cercles de formation ont un cycle intitulé « Rendez-vous de crise » depuis plusieurs années et que cette année, il sera consacré au travail et il commence le 25 février. Ce sera à 19h et je vous invite à venir écouter aussi nos débats autour de la question du travail dans notre société aujourd'hui.